Vous invite à voir la parole de Dieu ce soir dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 29. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et en particulier, ce verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Par le terme nulle chair, l'apôtre Paul veut dire l'humanité. Aucune personne, si loin de Dieu, qui poursuit son propre objectif, ses désirs indifférents à Dieu, que nulle chair, l'humanité qui est loin de Dieu, ne se glorifie devant lui dans sa présence. Et l'apôtre Paul a à l'esprit là le jour dernier, quand nous nous tiendrons devant Dieu au jour dernier, quand nous mourrons, ou quand Dieu met fin à cette période, ce qui vient en premier. Le jour où nous tiendrons devant lui pour rendre compte, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. C'est là mon premier point ce soir. Nulle chair ne se glorifiera. Ce ne sera pas suffisant si quelqu'un se tient devant Dieu et dit « Mais moi, je suis l'homme qui pour la première fois a découvert une caractéristique de l'atome. Est-ce que c'est important pour Dieu, pour le Créateur de toutes choses, pour le Dieu qui connaît des millions de particules bien plus petites ? S'il le choisit, il peut faire des choses extraordinaires. Dieu regarde le cœur, la position spirituelle d'une personne. Combien quelqu'un dépend de lui, le Dieu vivant, combien une personne l'a recherché, l'a aimé. C'est là ce que Dieu regarde et cherche, non pas l'accomplissement humain dans ce monde, même si ceci peut être extraordinaire et admirable pour nous, et peut être extraordinaire et un bienfait pour nous sur cette terre, une grande découverte. Mais ceci ne fait pas partie de la récompense éternelle, c'est un principe de l'Écriture et un principe que l'apôtre Paul proclame ici, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Mais moi, j'ai créé le vaccin qui est si important, c'est très bien. Si ceci a fait du bien à des millions de personnes, mais ceci n'a pas de valeur devant Dieu. Mais Dieu regarde au cœur, à l'âme. Il regarde à votre relation avec lui. Et Alexandre le Grand peut dire « Mais moi, j'ai gouverné, j'ai régné sur le monde. » Ce n'est rien devant Dieu. Il avait une vie courte et il est décédé. Mais Dieu est éternel et règne sur tout l'univers. « Mais moi, j'ai réussi dans la vie. » Peut-être que vous pouvez dire ceci ou imaginer ceci. Mais ceci ne suffit pas au jour dernier. « Ou j'ai la faveur de Dieu, je peux venir à lui. » « Non, dit l'Écriture, non, dit l'apôtre Paul, afin que nulle chair, l'humanité loin de Dieu, ne se glorifie devant lui dans sa présence. » C'est là le sujet. Personne ? Aucun politicien ? Aucun grand philanthrope ? Non. Si cette personne n'est pas juste devant Dieu, ceci n'est pas utile. Aucun crédit pour des accomplissements terrestres. Peut-être que quelqu'un construira le plus beau pont dans le monde. Peut-être que, à nos yeux, c'est une merveille d'architecture, d'ingénierie. Les matériaux utilisés, peut-être, sont des matériaux supérieurs et ce pont est beau et solide. Peut-être le pont le plus long que l'on connaisse. Mais quand Dieu regarde ce projet qui peut être utile sur cette terre, devant lui, c'est comme des petits hommes qui joue avec des Legos devant lui. Et il sait que, alors qu'il regarde ces choses, que ça pourrait être bien mieux fait en utilisant des principes d'architecture, d'ingénierie ou des matériaux que nous ne connaissons pas encore. Et Dieu le ferait bien mieux que nous, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Oh, combien l'orgueil humain n'accepte pas ces paroles. Nulle chair, aucun accomplissement humain. nous sommes loin de Dieu. Nulle chair ne se glorifiera devant lui. Qu'en est-il des chefs religieux, des prêtres, des sacrificateurs? Si leur religion a été inventée par les hommes, au goût des hommes ou pour gouverner sur les hommes, si c'est une religion humaine, elle ne tiendra pas devant Dieu, et eux non plus ne peuvent pas se tenir devant Dieu, parce que la seule vraie religion sera celle que Dieu a révélée lui-même. Ça viendra par révélation de la part du Dieu Tout-Puissant. Seul lui connaît ses attributs, son caractère, son dessein, ses plans, ce qu'il a déterminé pour la race humaine, ce qu'il a décidé, le chemin du salut qu'il a donné. Et il doit révéler ces choses. C'est si évident, ou ça devrait être évident pour nous. Toute autre chose est une invention humaine. Tout ce qui met de côté la Bible, la révélation de Dieu, la parole de Dieu, toutes ces choses ne sont qu'humaines. Et vous pouvez toujours voir la différence entre la vraie et la fausse religion. La fausse religion, dans tout le monde, inventée par les hommes, pour les hommes, a toujours ceci en commun. C'est une religion des œuvres. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez mériter la faveur de Dieu si vous faites ceci ou cela, ou si vous suivez les rites, ou si vous faites un peu de bien ici et là, ou si vous donnez vos offrandes, ou si vous répétez certaines choses, si vous suivez les rites d'une religion, vous aurez la faveur de Dieu, parce que c'est vos œuvres qui peuvent vous faire vous tenir devant Dieu. Mais ceci est faux. La vraie religion est révélée par Dieu et elle dit « Non, ça doit être par grâce. Nous ne pouvons être sauvés que par grâce. Ça doit être un salut libre que nous ne pouvons pas mériter, mais qui nous est donné par Dieu, qui a œuvré dans nos cœurs. » C'est là la vraie religion authentique et vous pouvez toujours voir la différence entre les deux. Chers amis, j'ai connu un homme il y a bien des années. Il était impliqué dans un domaine de recherche scientifique et il était bien connu dans sa profession. Et un jour, nous discutions dans le train et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu fais ceci ?» Et il a dit « Oh, je dois admettre que toute ma recherche, toutes mes publications, d'année en année, toutes mes avancées technologiques et scientifiques et pour le bienfait de 5 ou 6 personnes qui sont des experts dans le monde. Peut-être que ce qu'il faisait avait des applications importantes pour la vie, pour l'humanité, mais il était si consacré à son travail, il a même perdu sa femme. Et tout ceci pour 5 ou 6 personnes qui étaient dans le même cercle scientifique dans son domaine pour les impressionner eux, mais rien pour Dieu. Il ne le recherchait pas, et il ne pouvait rien apporter devant lui, pas d'hommage, il ne l'étudiait pas, il ne l'honorait pas, il ne le servait pas, au jour dernier. Nulle chair ne se glorifiera devant lui, et ceci est tragique. Certaines personnes se glorifient dans la race humaine, et dans ses accomplissements, ou soi-disant accomplissements, en fermant les yeux à toutes les tragédies dans le monde, et la violence, et les meurtres. La race humaine trouvera quelque chose à admirer, mais non, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. J'ai entendu parler d'un jeune homme, il y a bien des années, d'une famille très riche qui était propriétaire de beaucoup de fermes, et leur fils unique a hérité de tout, de toute la ferme et de toute la richesse, d'une manière extraordinaire, alors que ces fermes fonctionnaient bien, étaient prospères. Il a fait faillite dans toutes ses fermes, et il a même perdu la fortune qu'il avait. Tout a été dissipé. Comment est-ce qu'il a fait cela? Est-ce qu'il était insensé? Non. Est-ce qu'il était simplet? Non. Quel était le problème? Dans son cas, il était alcoolique. Il a commencé à boire, et il en était dépendant. Mais pour nous, c'est une image de la race humaine. La race humaine est là. Elle est si différente des animaux. Elle a tant de capacités qui lui sont données par Dieu. Elle est capable d'inventer, de rechercher, de créer des choses avec tant de capacités. Mais il y a un problème. Non pas seulement l'alcoolisme. Ceci affecte certaines personnes, mais le péché. Le péché dans le cœur humain. Nous sommes une race humaine qui a chuté loin de Dieu et à cause de la contagion du péché, nous ne pouvons jamais réussir. nous nous confions en nous-mêmes, dans la race humaine, alors nous serons toujours dans les problèmes, dans la difficulté, dans toutes ces choses que j'ai mentionnées, la violence, l'injustice et la déception et des choses difficiles et l'orgueil et la malhonnêteté qui est là partout à cause du péché qui est contagieux. Mais nous avons besoin de Dieu, de son pardon, d'être reconstruits en tant qu'individus et d'être recréés. Seulement à ce moment-là pouvons-nous nous tenir. Au jour dernier, il y a un autre jeune homme de qui j'ai entendu parler et son père lui a donné une entreprise pour le former, l'éduquer. Le père avait plusieurs entreprises. Il a donné une entreprise à son fils, mais il a échoué. Il n'a pas réussi. Et quand l'entreprise a dû fermer et qu'il a dû parler à son père, il a dit à son père, « Tu ne m'as jamais aidé. » Et son père a dû lui répondre, « Mais tu ne m'as jamais demandé. » Et c'est là une image de la race humaine, de l'humanité, dans son comportement envers Dieu. L'humanité qui crie, « Si Dieu est là, il n'est pas bon. » Mais à la fin des temps, Dieu va nous dire, « Vous n'avez jamais demandé, vous n'avez pas prié. Si nous ne sommes pas convertis, nous ne prions pas, nous ne nous tournons pas vers lui, nous ne l'honorons pas. Ainsi, nous ne sommes pas surpris d'échouer. » Comment est-ce que Dieu nous voit spirituellement? Comment est-ce que Dieu nous voit? Je dois accélérer. Il nous voit comme ceux qui ne peuvent pas lui parler. Nous ne pouvons pas prier, comme si nous ne pouvions pas parler. Il nous voit comme ceux qui ne peuvent pas voir, parce que nous ne pouvons pas avoir le chemin vers Dieu. Nous ne pouvons même pas nous voir nous-mêmes, nos besoins, comme quelqu'un qui devait vivre dans une prison sombre, sans lumière, dans une cellule. Et peut-être que cette personne est devenue très sale, parce qu'elle ne se voyait jamais dans un miroir, et à la lumière du soleil. Nous ne réalisons pas notre besoin d'être pardonné et notre péché. Nous ne pouvons pas l'entendre. L'Écriture, nous ne la comprenons pas. Nous ne voulons pas comprendre la Bible. Nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous contrôler nous-mêmes. Nous n'avons aucun contrôle sur nos péchés. C'est ainsi que Dieu nous voit. Quelle chose extraordinaire que de connaître Dieu, de venir à lui. Ceci, c'est la grandeur, la vraie grandeur, non pas la mienne, mais la grandeur, c'est de venir à Dieu pour le salut, d'être transformé. Vous venez à Dieu, vous croyez en Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour souffrir, pour mourir, pour les pécheurs, pour prendre notre condamnation à notre place, et nous croyons en lui. Vous croyez en lui, vous recherchez le pardon de Dieu, et quand il vous voit comme si vous étiez juste, et il vous transforme. Et ceci m'amène à un autre point que j'aimerais mentionner, la vie nouvelle. Qu'est-ce que c'est que de venir à Dieu par Jésus-Christ et de recevoir une vie nouvelle? Chers amis, vous avez besoin d'une maison, oui, vous avez besoin d'une demeure. Que vous viviez seul ou que vous ayez une famille, vous avez besoin d'une maison. Peut-être que vous arrivez dans une nouvelle ville, vous devez vous installer, peut-être installer votre famille. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Vous avez besoin de chercher un appartement ou une maison, que vous puissiez l'acheter ou que ce soit loué. Vous devez comprendre ces choses, parce que ces choses ne vont pas descendre du ciel. Vous devez savoir comment acheter un appartement ou comment parler au propriétaire ou aller dans une agence immobilière. Vous devez savoir comment rechercher un appartement. Et de même, avec Dieu, si vous trouvez une maison, vous l'avez achetée et elle est en mauvais état, elle n'a pas été repeinte pendant des années, et pour vous, pour votre famille, vous devez commencer à réparer et à repeindre cette maison. Vous avez besoin de meubles, vous avez besoin d'électricité, d'eau, ces choses sont évidentes. Et vous avez besoin d'une table, de chaises, d'un lit, etc. Ainsi, vous mettez les meubles dans la maison. Et de même pour le salut. Vous commencez, vous devez savoir comment trouver Dieu. Ensuite, vous venez à lui. Et c'est comme si vous receviez votre maison. Il vous donne le droit d'être son enfant. Il vous pardonne vos péchés. Il fait de vous son enfant. Et ensuite, vous avez besoin de mettre des meubles. Vous avez besoin de sa puissance et qu'il pourvoie pour vous. Il œuvre dans votre vie. Il vous donne différentes capacités dont vous avez besoin. Il vous transforme entièrement. C'est là ce que l'Écriture dit ici. J'aimerais lire ces paroles au verset 30. « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Ceci est si clair et simple. La sagesse, tout d'abord, vous avez besoin de comprendre le chemin vers Dieu, le message de l'Évangile, que nous sommes tous pécheurs loin de Dieu, que nous ne pouvons pas réclamer quoi que ce soit ou nous tenir devant lui, à moins que nous ne cherchions le pardon tout d'abord, que Christ a payé pour nous en prenant la condamnation du péché à notre place à la croix du calvaire. Il a souffert, là, il est mort, là, et il a porté tout le poids de la condamnation de millions de personnes qui seront sauvées, une souffrance que nous ne pouvons même pas imaginer. Les clous dans ses mains, dans ses pieds, étaient une souffrance insignifiante comparée à sa souffrance. Mais la souffrance invisible de Christ, alors que le Fils de Dieu éternel a souffert la condamnation à notre place pour notre péché, de manière invisible, dans son âme, dans son être, dans son corps qui a été blessé et brisé, et son âme a été affectée, et il a tout porté, voyez-vous, il a payé le prix pour nous pardonner à tous ceux qui croient en lui. Il nous connaissait par avance, et il est mort pour nous. Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, c'est ce que Christ a fait, que vous devez connaître. Il est le chemin du salut. Vous venez à Dieu par Jésus-Christ. Mais ensuite, il est également fait justice. Comme quand vous achetez une maison, vous avez vos documents, ces documents-là à votre nom. Vous avez le droit d'occuper cette maison. Ainsi, vous recevez le droit d'être un enfant de Dieu parce que vos péchés sont pardonnés. Et Dieu vous a adopté et il a déclaré que vous êtes son enfant. Ainsi, vous avez le droit d'occuper cette maison. La justice, la sagesse, la justice et la sanctification. À présent, vous êtes sauvés, mais vous devez être transformés. Et Dieu vous donne une nouvelle nature. C'est comme repeindre la maison. Vous êtes une nouvelle personne. Il vous donne l'humilité. Il vous donne l'intégrité. Vous n'êtes pas parfait, loin de là. Vous allez toujours devoir combattre contre le péché, mais il va vous donner la force, il va vous aider. Et il vous donne ce grand départ en vous donnant l'amour pour lui et la sensibilité et la douceur. Il transforme votre caractère, votre nature même. Vous êtes une nouvelle personne. C'est comme mettre des meubles dans la maison et allumer l'électricité et l'eau. La sagesse, la justice, la sanctification, la sainteté et la rédemption. Ce que Paul a à l'esprit ici, quand il utilise le terme rédemption, c'est la rédemption finale, le jour où vous êtes admis dans le ciel, le jour où vous quittez cette vie et vous vous trouvez dans la présence de Dieu et de tous ceux qui vous ont précédé, dans la merveille de la gloire éternelle, et vous voyez Christ, vous entendez sa voix, la rédemption finale. C'est comme aller dans une nouvelle maison ou dans un appartement. Quand vous avez le droit d'occuper ces lieux, que vous avez le document à votre nom, tout est en ordre, vous avez ces documents, vous avez la sécurité. Personne ne peut venir dans votre maison le jour d'après en disant « Non, ça ne vous appartient pas, c'est ma maison ». Non, vous avez la sécurité, la rédemption finale. Quand nous venons à Christ, nos péchés sont pardonnés. Et nous avons une vie nouvelle, nous avons une sécurité absolue. Nous irons au ciel. C'est là l'enseignement de la Bible. Si nous sommes réellement convertis, si nous sommes réellement sauvés, Dieu va de manière certaine nous accepter dans la gloire éternelle. Nous ne serons jamais rejetés. Et on ne nous ôtera jamais la citoyenneté du ciel. C'est impossible. Je suis désolée de la simplicité de mon illustration. Mais les gens ont peur de ces termes. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ quand vous êtes sauvés, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse. Connaître le chemin, la justice, le pardon, la sanctification, être transformé, et la rédemption finale, la sécurité finale, pour la vie éternelle. C'est là ce que ces termes signifient. C'est ainsi que Dieu nous bénit. Nous avons commencé avec le verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Chers amis, soyez avertis, soyez avertis. Mais voici l'amour de Dieu. Nous pouvons venir à Christ et lui donner notre vie et nous repentir de notre péché et rechercher le salut de sa part. Et toutes ces choses se passeront dans notre vie. Nous serons pardonnés. Nous serons renouvelés, transformés. Il nous donnera la vie éternelle, la sécurité éternelle. C'est là le message de ces versets pour nous ce soir. Ne recherchez pas la célébrité qui passe ou la richesse, parce que vous ne vous tiendrez jamais devant Dieu avec ces choses, mais vous serez bannis, condamnés éternellement. Ne vous glorifiez pas dans votre jeunesse. La jeunesse est extraordinaire, mais elle passe. Ne vous glorifiez pas dans vos prouesses, dans vos capacités, dans une chose ou dans une autre. Oui, vous avez bien réussi, c'est une bonne chose, mais ceci ne suffit pas pour se tenir devant Dieu, parce que nous parlons de choses spirituelles et morales. Ne vous glorifiez pas dans l'humanité. L'humanité a chuté loin de Dieu. L'humanité est si loin de Dieu, malgré tous ses accomplissements. Ne vous glorifiez pas dans vos œuvres. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit « Je crois en Dieu et c'est ainsi que vous pouvez accéder à Dieu par vos propres efforts en étant bon, etc. » Non, c'est impossible. C'est uniquement en Christ, le Sauveur, celui qui nous pardonne. Ainsi, nous pouvons nous tenir devant Dieu uniquement en lui et nous allons connaître sa bonté, sa puissance pour nous transformer, son amour. Chers amis, nous avons tous besoin de Christ afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Mais tous ceux qui sont en Christ le connaîtront ici, maintenant, à présent et pour l'éternité. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions. Délivre-nous de ces choses qui veulent nous emmener loin de toi. Seigneur, nous te prions que nous puissions te respecter profondément et aspirer à te connaître, que nous puissions aimer Jésus-Christ, être émerveillés devant lui et à tout ce qu'il a fait pour nos âmes, pour que nous puissions venir à lui et le trouver. Nous te le demandons dans son nom et pour sa gloire. Amen.